Bienvenue dans votre cabinet de curiosité qui ouvre aussi de 21h à 22h sur RTL et 24h sur 24 sur RTL.fr.
On a pas mal de permanences.
Voilà, on est là assez souvent. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster. Ici, vous le savez, on aime quoi ? On aime l'histoire, les grands destins, les aventuriers, les sagas musicales, les scientifiques, les naturalistes. Et on s'éclate à présenter cette émission en...
Vous parlez de moi ?
Ouais, en duo.
Ah bah oui, vous avez raison Thomas.
Ça va bien.
Salut les curieux et merci de votre grande fidélité. Elle nous porte et nous importe. C'est l'enfance d'un roi qui nous passionne aujourd'hui et pas n'importe lequel. On va l'appeler Soleil.
RTL.
Pour être roi, il suffit d'être le fils de Louis XIII et de naître le premier. Mon frère aîné est roi, mais mon frère est moins futé que moi. Si je le dis, je suis déculotté et fouetté, c'est le roi.
La curiosité est un vilain défaut.
Un roi a toutes les qualités. Mon frère a toutes les qualités. Il est secret, prétentieux et sournois. Il méprise la terre entière.
Petite merde !
Il est fin.
Extrait du film L'Enfant Roi, film qui date de 1993, signé Roger Planchon. Bonjour François-Guillaume Laurin.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes romancier, historien, en charge des pages de l'histoire au magazine Le Point. Et donc vous allez nous raconter l'enfance de Louis XIV. On commence par ce jour où il devient roi. C'est un petit garçon, il n'a même pas 5 ans. Et pourtant, il va assister à la mort de son père. D'abord, de quoi souffre Louis XIII ?
Alors, on appelle ça aujourd'hui une maladie de Crohn. C'est-à-dire, c'est une inflammation chronique de l'intestin, de l'estomac. En gros, Louis XIII se consume de l'intérieur. Alors, je ne voudrais pas écœurer d'emblée vos auditrices. Donc, ça s'écoule de partout. Grande douleur. Mais Louis XIII va mourir très chrétiennement. Il va, et ça c'est important pour les rois, il faut qu'ils aient une mort chrétienne, se prépare à leur salut. Ça veut dire jeûne, ça veut dire cantique qu'on chante même sur le lit de mort, ça veut dire prière à répétition.
Passage de flambeau aussi.
Aussi transmission, et c'est pour ça que l'enfant est là, il est là présent.
Donc Louis XIV assiste à
l'agonie de son père.
À l'agonie de son père.
Louis avec un sursaut. Dingue, avec notre regard d'aujourd'hui, on ne ferait pas subir ça à un enfant de 5 ans.
Oui, bien sûr, on a d'autres critères et canons sur l'enfance aujourd'hui. Et donc, en particulier, il lui remet un peu ses dernières volontés, ce dernier discours. Et d'ailleurs, Louis XIV lui-même, 77 ans plus tard, fera la même chose avec Louis XV qui n'aura que 5 ans.
On sait ce qu'il lui dit, Louis XIII à Louis XIV ?
En fait, on n'a pas les dernières paroles. On imagine qu'il lui demande peut-être de ne pas faire autant la guerre qu'il l'a faite. Il y a se repentir, ne pas demander trop d'impôts au peuple, ne pas l'écraser, donc calmer la colère du peuple. Il le fait en présence de tous les grands du royaume parce qu'il prépare aussi la transmission du royaume. Et là, Richelieu est mort 6 mois avant, le premier ministre qui avait une main de fer. Et ça commence à s'agiter en coulisses et les appétits à s'aiguiser entre un chancelier, entre un Mazarin entre la reine-mère.
Oui, Anne d'Autriche, évidemment, dont on va longuement parler grâce à vous, François-Guillaume Laurin. Est-ce que quelqu'un prononce le célèbre « Le roi est mort, vive le roi » ?
Alors, c'est une formule qu'on connaît beaucoup, mais qui ne se prononce plus au XVIIe siècle, qui se prononçait jusqu'au XVIe siècle, et donc qui n'est plus là. Elle est dans les esprits, elle a été remise après au goût du jour par certains livres, mais simplement, il dit, on sait que sa dernière parole, c'est Jésus. Et avant, son avant-dernière parole, c'est « il faut mourir ».
Louis XIV se retrouve seul, sans père. Il va se retrouver sous la coupe de sa mère, Anne d'Autriche. Comment elle se comporte avec lui ?
Alors, pour Anne d'Autriche, Louis XIV est sa planche de salut. Elle a mis très longtemps à l'enfanter. C'est un peu l'enfant du miracle. Et c'est sa garantie pour survivre face aux grands du royaume. Et elle va à la fois vouloir en faire un grand roi, un bon roi. C'est dans un royaume qui est très menacé, très vulnérable. Donc une éducation très stricte, avec beaucoup de professeurs. On pourra peut-être y revenir.
Oui,
mais aussi, elle-même a grandi à Madrid.
Elle s'appelle Anne d'Autriche, mais
elle
est espagnole.
Parce que... Alors, on ne va pas se lancer dans généalogies, mais c'est les Habsbourg qui sont à la fois à Vienne et
d'accord.
à Madrid.
Ouais.
Et donc, elle a grandi avec ses parents dans une très bonne ambiance, on va dire, familiale, et elle a envie de reconstituer cela.
Donc, elle s'en occupe quand même de son fils.
Par exemple, il y a le lever assez tardif chez elle, un peu à l'espagnol. Et donc, elle a besoin d'avoir ses deux enfants dans son lit, qui assiste à son lever, qui lui passe sa chemise, qu'elle caresse, qu'elle dorlote, qu'elle cajole. Ça n'empêche pas d'être une mère extrêmement sévère. Et on va dire juste mais sévère, sévère mais juste.
Et on racontera le détail de cette éducation tout à l'heure. François-Guillaume Laurin, vous publiez Louis XIV, L'Enfant Roi, c'est aux éditions Ixou, et vous dites qu'il est en permanente contradiction, ce petit Louis XIV. Pourquoi ?
Bien parce que, en fait, on lui demande à la fois de n'être qu'un enfant, on le renvoie toujours au fait qu'il n'a que 7, 8, 9 ans, et que ceux quand même qui prennent les décisions, c'est Mazarin et la reine-mère. Et puis, en même temps, on lui demande d'être le roi. C'est-à-dire, on va lui faire un grand tour de France pour qu'il réponde au président du Parlement, des parlements qui sont en rogne et très mécontents dans leur remontrance. Mmh. Et donc, il faut qu'il écoute, lui, le premier, et qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas. On va lui faire le tour des armées. Et d'ailleurs, tout ça, c'est un régime qu'il peut aimer parfois, qu'il déteste, mais qui va, par exemple, lui faire tomber malade et lui faire frôler la mort à l'âge de 9 ans parce qu'il ne résiste pas à plus d'un an de chevaucher.
Ah oui,
on le sollicite trop, c'est ça,
Surtout sur les routes à ce moment-là. Pendant 3 mois, il va aller... Le royaume est en guerre. Le royaume, si je peux me permettre une image actuelle, il y a à la fois les gilets jaunes, les syndicats en ébullition, le Parlement en fronde. Ouais. Vous avez la guerre aux frontières. Et puis, vous avez des divisions à n'en plus finir au sein de la famille. Et donc,
finalement,
on lui demande...
C'est calme en ce moment.
Voilà. Et donc, imaginez un président qui aurait 9 ans, mais quand même entouré par sa mère et un premier ministre. Eh bien, on lui demande d'aller pendant 3 mois sur le front, aller... passer en revue les troupes, discuter avec les grognards, regonfler le moral parce que les armées françaises ont été battues. Donc voilà, on s'en sert un peu comme une mascotte. Donc voilà, il est tout le temps en train de... Enfant ou roi ? Roi ou enfant ?
Il a une pression folle, ce Louis XIV. Vous le disiez tout à l'heure, Anne d'Autriche a mis du temps à l'enfanter. Ou alors, enfin, peut-être l'accouchement a peut-être été long, mais à le concevoir. C'est ça que vous vouliez dire ? Ça a été long ?
Oui, voilà, pour le dire... Disons que le roi Louis XIII et Anne d'Autriche ont longtemps fait château à part.
Et donc, c'est pas pratique pour avoir des enfants.
Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est parce qu'il y a toute cette relation extrêmement difficile, et d'ailleurs Louis XIV va un peu en pâtir, entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Parce qu'Anne d'Autriche, elle est encore espagnole. Or, la France est en guerre avec son frère, le roi d'Espagne. Et elle reste espagnole jusqu'à ce qu'elle devienne la reine-mère. Elle va devenir complètement française quand elle a son fils à éduquer. Mais avant, elle trempe dans les complots, on connaît dans les Trois Mousquetaires, Richelieu qui la surveille, qui l'espionne. Et ça se passe très très mal entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Et Louis XIV, le petit, va en pâtir parce qu'il est pris un peu comme dans un couple qui s'entend très très mal.
Alors on n'a pas donné la date, c'est le 14 mai 1643 qu'il devient Louis XIV. Vous allez nous le décrire, tiens, dans un instant sur RTL. Vous allez nous dire si c'est un gamin plutôt chétif, sportif, studieux,
sympa,
tulburant. Bref, il était comment ce bébé roi ?
On veut tout savoir.
Monsieur le procureur.
Oui, Rachel.
Il y a un monsieur XIV qui demande à vous voir.
Un monsieur qui ?
Votre prénom, c'est...
Louis.
Louis XIV.
Bon, c'est une blague, ça. Il est vêtu comment ?
Mais bon, il est vêtu.
Eh bien ?
Il est vétuste.
Sur RTL.
Quoi qu'il en soit, je veux le reprendre.
Reprendre le pouvoir ?
Bah, je suis roi, non ?
C'est-à-dire que le système est un petit peu changé, là.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il faut d'abord se faire élire.
Se faire haïr ?
Non, ça, c'est la deuxième étape.
La curiosité est un vilain défaut.
Extraordinaire sketch de François Pérusse, le retour de Louis XIV, peut-être qu'il nous passera un coup de fil.
Et puis ça nous rassure sur les blagues pourries.
Il est vêtu,
on aurait pu la faire.
Chez lui, ça sonne
ça
vraiment
sonne mieux,
bien.
Hein, c'est drôle. Hein.
Puis il en a fait un métier en plus.
Ça s'appelle du talent. Voilà.
C'est l'enfance de Louis XIV que l'on découvre sur RTL avec le romancier et historien François-Guillaume Laurin. Il est né Louis Dieudonné, parce que c'est un don de Dieu, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, parce qu'on l'a attendu près de 25 ans, donc il est donné par Dieu. C'est déjà la grâce divine et c'est déjà l'élément presque divin qui s'invite dans sa vie à lui, qui va cultiver le divin et la mise en scène du divin.
C'est-à-dire qu'il va être très attaché à ce nom et son histoire, il va connaître la difficulté de sa conception ?
Oui, et puis c'est presque, vous savez, on dit qu'on porte notre prénom et notre nom dans notre vie, on l'accompagne, il nous accompagne. Et là aussi... il va s'identifier beaucoup au dieu Apollon, plus tard à Versailles.
Il était beau gosse, Louis XIV ?
Alors, il avait, on peut lui trouver sur les tableaux un certain charme. Il avait un sens de la majesté et une conscience très précoce de Sa Majesté. Ça veut dire quoi aussi de la distance et de la distance à établir avec ses proches, avec les planètes, hein, puisque si on veut jouer sur, sur l'image du Soleil. Son caractère, on le connaît à la fois par les mémoires du valet de chambre et puis un camarade de jeu au Palais Royal, Brienne. Il est impérieux et pas très enjoué, assez grave, comme s'il avait aussi conscience très tôt de la majesté de sa charge. On ne plaisante pas. On ne plaisante pas beaucoup avec le jeune Louis XIV.
Mais il a des copains de jeu quand même.
Oui, on lui accorde entre ses 7 ou 8 professeurs qu'il reçoit à l'âge de 7 ans, quand il passe des femmes aux hommes dans son éducation.
Ah oui, il n'avait que des femmes autour de lui jusqu'à l'âge de 7 ans.
Oui, c'est des gouvernantes, c'est des nourrices. Ouais. D'ailleurs, elle le surveille d'un œil assez discret. Parfois, il fait des fugues. Mais là, oui, les choses sérieuses commencent à l'âge de raison. Et on lui donne un professeur d'écriture, de mathématiques, d'italien, d'équitation, d'escrime. Enfin, un roi, ça s'apprend à se battre, ça va vite chassé, parce qu'il faut montrer au peuple qu'il est apte, capable, plus tard, de faire la guerre. C'est le plus important.
Et donc, ça répond à l'une des questions qu'on se posait tout à l'heure avec Sidonie, c'est plutôt un gamin sportif, tonique.
Oui, et par exemple, on lui construit à l'intérieur du Palais Royal un fortin. Ça, c'est une...
Qu'est-ce que c'est ?
Un petit fort de bois qui fait quand même 2 mètres de haut, avec des tours et avec ses camarades de jeu. Donc, il a petit tambour on défile avant la bataille. Il y a les Espagnols et les Français, hein, puisqu'on joue à la guerre. Mmh. Et lui, il est du côté toujours des Français. Et les Français, ils gagnent toujours, parce que le roi gagne toujours. Oui. Et donc, il y a une petite trace comme ça chez Brienne. Moi, je me suis amusé. Il y en a assez d'être de l'autre côté des perdants.
Ah, son camarade de jeu, il est toujours espagnol, c'est ça ?
Voilà, Brienne, il est toujours espagnol. Ouais. Et puis, il dit qu'il n'a même pas la joie du vainqueur, vous savez, ce soulagement, c'est normal.
Vous venez de nous dire qu'il avait fugué ou qu'il fuguait, et ça a pu avoir des conséquences dramatiques, c'est ça ?
Oui, alors, moi, je me suis amusé à jouer entre l'histoire, l'anecdote et puis le roman, quand... Voilà, une ligne faisait un chapitre, le roman prenait le relais de l'histoire. On lit qu'il manque se noyer, vers 7 ans à peu près, dans un bassin des Tuileries, c'est-à-dire, on va dire, de l'autre côté de la rue, hein, par rapport au Palais Royal. Oui. Et moi, on ne sait pas pourquoi, comment, on sait qu'il avait une petite amie, une petite copine, qui était la fille d'une chambrière, d'une servante.
Une chérie ou une copine de jeu ?
Oui, une petite copine de jeu, ouais. Marie, et qui s'amusait à inverser justement les rôles, et que ça déplaisait à la reine, parce qu'il jouait le servant de la fille de la chambrière, qui, elle, devenait la princesse. Vous me suivez ?
Complètement.
Vous avez imaginé qu'il suivait sa petite
Voilà, et donc dans ce
amie.
Jeu, je les imagine fuguer, s'échapper, parce que c'est quand même un carcan de dressage, toute cette éducation, et qu'ils vont au Palais Royal, aux Tuileries, et qu'elle lui lance un défi dans ce jeu de rôle. Et que là, il tombe dans le bassin.
Comment Anne d'Autriche va élever son fils Louis XIV ? Vous disiez qu'elle était, elle pouvait avoir des moments d'amour le matin. Elle joue avec des parents modernes, d'ailleurs, avec leurs enfants. Le matin, on fait un petit câlin. Mais que le reste du temps, elle était extrêmement sévère.
Alors, elle est très chrétienne, très catholique. Elle a été élevée, on va dire, penchée sur des reliques. Et donc, c'est important pour elle. Elle l'emmène à la confession. Et c'est pour ça que j'ai mis quelques scènes où il est avec elle dans le confessionnal. Alors,
Puis elle l'élève à la dure. Pardon,
oui, elle choisit avec Mazarin un précepteur qui ne plaisante pas et qui l'initie essentiellement aux 4 vertus du prince et du roi. Je vais essayer de ne pas en oublier une.
Quand on fait des vous serez fouetté, sinon.
Alors, c'est la force, la justice, la prudence et la tempérance.
Et pour que ça rentre tout ça, il y a des coups de bâton également, parce qu'on dit que c'est un enfant battu.
Oui, le valet de chambre témoigne que le fouet a été donné, mais c'est plus par rapport aux caprices. Parce que c'est là aussi une autre contradiction, en fait. C'est que vous êtes dans les galeries du Palais Royal, il y a déjà des courtisans qui se placent. Parce que ce roi va grandir. On est là dans le régime des faveurs et il faut se faire aimer du futur, du roi, mais du roi adolescent, adulte. Et donc, on le flatte, on le compare à 6, 7 ans, 8 ans, à un demi-dieu. Vous imaginez, à cet âge-là. Et lui, il apprend, par exemple, aussi, dans les exercices d'écriture, j'ai trouvé la trace qu'il apprend à écrire en disant « Le roi fait ce qui lui plaît ». Mais non, le roi ne fait pas ce qui lui plaît parce qu'il n'est qu'un enfant.
C'est une sacrée source, ça, ces carnets de valets François-Guillaume Lorrain. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu aigris ? Ils balançaient pas. Enfin, c'était. Vous avez des potins d'anciens employés.
C'était le closer, voilà. Et le voici de l'époque.
Ça vaut quoi ? Pourquoi ils sont mis à écrire comme ça sur le quotidien de Louis XIV et de la vie de la cour ?
Ils ont été publiés pour la plupart du vivant, Louis XIV, parce que il va durer très longtemps. Ouais. Il va vivre jusqu'en 1715. Donc. Peut-être que tout n'y est pas, évidemment, parce qu'il y a la prudence, justement. Mais en tout cas, il y a quelques sources. On aimerait qu'elles soient plus nombreuses. Mais c'est justement c'est ça intéressant. Il y a assez pour imaginer, interpréter, extrapoler, mais pas tout pour que le romancier, comme je disais, prenne le relais de l'historien. Voilà, on est entre les deux.
Louis XIV, à qui on apprend, ça va beaucoup faire rire en préparant l'émission, à jouer la comédie du sommeil.
Comment t'as fait semblant de dormir ?
Vous allez voir, ouais.
Mais tu dois bâtir ton propre paradis. Ainsi, le monde entier sera témoin de l'avènement de Louis le Grand.
Extrait de la série Versailles, Louis XIV, l'enfant roi, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invité François-Guillaume Lorrain. Il est publié aux éditions... IXO, il faut raconter, François-Guillaume Lorrain, que l'enfance de Louis XIV, c'est aussi une enfance dramatique, sous tension. Et on doit même l'évacuer parfois en pleine nuit, c'est ça ?
On est en pleine fronde, hein. Fronde du Parlement, fronde des princes, de sa propre famille, de son cousin Germain, le Grand Condé, qui est le héros du temps, qui le méprise, lui, parce qu'il n'est qu'un petit enfant de 10 ans.
Et qui rêve de devenir roi.
Pas roi, mais en tout cas d'avoir toutes les clés, toutes les mains de se débarrasser de Mazarin et de la reine-mère, en tout cas. Et très méprisant comme personnage. Mmh. Vous avez la fronde des bourgeois de Paris qui entourent le palais royal, qui envoient des pierres. La fronde du peuple, des artisans, du petit peuple. Et un jour, on l'évacue donc parfois de nuit, on vient le réveiller, Mazarin, il faut aller à Saint-Germain, il faut aller à Rueil, parce qu'il faut échapper justement à l'emprise du peuple et des bourgeois qui détestent. Parce que avoir le petit roi, qu'on aime beaucoup quand même, c'est pas remettre en cause la royauté, mais c'est l'avoir sous la main, c'est très très important.
Il pourrait être kidnappé, ce Louis XIV, dans son enfance ? Il pourrait être même assassiné par le peuple ou
Pas kidnappé, pas assassiné, mais c'est simplement l'avoir là, sous la main. Et on se souviendra après les conséquences terribles, la fuite du roi à Varennes de Louis XVI. C'est le tournant de la Révolution. Si le roi fuit et est rattrapé... Ça va pas.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit présent.
C'est comme une boussole, un point central.
Quoi.
Oui. Et un des moments les plus dramatiques, c'est moi qui m'a bouleversé, c'est le moment où le peuple, il y a des rumeurs, Paris bruisse de rumeurs. Mmh. Et on dit cette fois-ci, mais c'est l'oncle, parce que lui aussi, il veut jouer un peu un rôle, l'oncle du roi, il fait circuler le bruit que le roi va partir. Et donc le peuple, il veut voir, il veut s'assurer qu'il est là dans son lit. C'est la nuit, il rentre au palais royal. C'est une scène pré-révolutionnaire. Vous imaginez tout le peuple qui arrive dans le palais royal, dans
la
chambre.
Il laisse rentrer.
Voilà, c'est...
Et donc... représentants du peuple ou ils rentrent comme
non,
ça
Non, 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 c'est des bourgeois. Il y a deux officiers qui sont là, qui parlent avec la reine et la reine, c'est de les calmer. Mais elle a prévenu évidemment son fils avant de faire semblant de dormir. Parce qu'en effet, ils vont partir 2-3 heures après.
Ah, c'est ça l'histoire de la comédie
du sommeil
dont on parlait. La comédie
du sommeil, c'est cela. Et vous imaginez la réaction, la tête de Louis XIV, il sent autour de lui une foule en colère, mais qui peu à peu va se purger de cette colère, parce qu'elle aime son enfant, elle aime son roi, il est tout beau, il est dans son regard et son sommeil d'ange un peu merveilleux, ils se disent qu'il fait des rêves, et elle, d'ailleurs, on a la description, la foule se met à s'agenouiller et à prier pour le salut de son roi. Voilà, là, il y a une sorte de réconciliation. Mais comment l'a-t-il vécu, lui, de l'autre côté ?
C'est ce que j'allais vous dire.
À sentir
que ça
le souffle
dans
si
la tête d'un enfant
de ces gens-là. Ouais. Et bon, c'est une empreinte, pour moi, c'est une des scènes primitives, hein, vraiment, de sa vie. Une empreinte indélébile qui explique après, et très vite même, qu'il n'aura de cesse de se mettre en scène, de se mettre à distance. Toute la folie un peu de Louis XIV à Versailles.
C'est la mégalomanie, c'est ça ?
Oui, mais aussi le fait qu'il pousse à son apogée le faste, le cérémonial, la mise en scène, la richesse, tout ce qu'on sait. Mais dès l'âge de 14-15 ans, ses grands plaisirs, c'est jouer au théâtre, c'est danser. Et donc, c'est être sur scène, mais être inaccessible, donc être dans la représentation. Et Versailles, on va l'appeler le roi machine, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose d'inhumain. Mais je trouve que là, en germe, il y a tout cela.
Et le roi soleil, ce surnom, il apparaît quand c'est lui qui se le donne, qui
Alors,
lui donne ce surnom?
On dit qu'à sa naissance, un jour, il faisait très très chaud. Donc le soleil dardait de tous ses feux. Mmh. Il y a un astronome qui, peut-être par flatterie, a dit que le soleil avait fait un léger détour pour venir saluer la naissance du roi. En fait, on sait que sa devise, c'était au-dessus de tous les hommes, donc tel le soleil. Et ensuite, très vite, il va s'identifier dès l'âge de 15-16 ans au dieu d'Apollon, mmh. qui est symbolisé par un soleil. Mais déjà dans les ballets, quand il a 15 ans, il incarne Apollon. Et puis ensuite, ça va être le bassin d'Apollon qu'on connaît à Versailles, le salon d'Apollon à Versailles, qui est la salle du trône, puis la galerie d'Apollon qui fait construire au Louvre. Ça va être une déclinaison de ce roi soleil.
Mmh. François-Guillaume Lorin, puisqu'on est dans l'intimité de l'enfance de Louis XIV, et c'est assez unique, c'est la première fois qu'on le raconte sur RTL dans la curiosité. Il a un petit frère, le roi Philippe. Le prince Philippe, ça se passe comment avec lui?
Ça se passe à la fois comme des chamailleries entre deux petits frères qui n'ont que 2 ans de différence.
Ils sont vraiment élevés ensemble, comme deux frères dans une fratrie
oui,
classique.
Oui, élevés ensemble, avec deux caractères très différents. On disait tout à l'heure, Louis XIV est assez grave, sérieux, on ne plaisante guère, impérieux, autoritaire. Philippe est enjoué, plaisantin, et au moins lui ne... Durant toute sa vie, d'ailleurs, ne lui posera pas trop de problèmes, alors que ce n'était pas le cas avec Louis XIII et son frère.
Ouais. Il nous reste 2-3 minutes, François-Guillaume Lorin. Il faut parler de Mazarin, forcément, parce que dans l'enfance et dans l'éducation de Louis XIV, il joue un rôle majeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il lui apprend les rudiments de la politique, Mazarin?
Bien sûr, c'est son parrain, d'abord. Ouais. Et Louis XIII, à sa mort, l'a confié pour son éducation. Il le fait participer, c'est ce que je raconte dans certaines scènes, au conseil du roi, très tôt, vers 10-11 ans. Il est très curieux, très précoce, hein, très, très lucide, ce Louis XIV, il pose beaucoup de questions. Il lui fait rencontrer aussi les grands pour le frotter, en fait, à cet esprit frondeur aussi, à cet esprit français. Mazarin est un homme de la négociation, du compromis. C'est un sinueux, c'est un ondulatoire.
Et donc, des intrigues.
Et donc, il lui apprend aussi, par exemple, à ne pas répondre, à se taire, à laisser penser, à laisser espérer.
La fameuse distance.
Autant de leçons qu'il va très bien retenir. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est qu'à l'âge de 14 ans, alors qu'il doit parfois éloigner Mazarin, qui est très impopulaire, il va décider lui-même toute la mise en scène de l'arrestation du plus grand ennemi politique, qui est le cardinal de Retz. Avec une mise en scène où il le fait venir, il l'attire au Louvre, et une machination à 14 ans, vous imaginez. Vous êtes une bête politique en face de vous, oui. Et vous allez le faire arrêter sur un mot dont il a convenu avec des hommes de main.
Donc ça veut dire que Louis XIV à 14
joue
ans physiquement est là face au cardinal de Retz, et c'est lui qui provoque de son arrestation,
quoi. Il l'a décidé en amont, oui. Il en a décidé les circonstances, exactement comment tout ça doit se passer, sur un mot qu'il va prononcer, et qu'il reste seul sur le théâtre, et à ce mot-là les hommes de main se jettent.
Passionnant. Merci beaucoup François-Guillaume Lorin. Dans votre livre Louis XIV, l'enfant roi, qui est publié aux éditions Ixo, il y a évidemment encore une foultitude d'anecdotes et d'histoires à découvrir à propos du roi soleil.
Vous êtes fan de notre curiosité, vous avez aimé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à nous partager, à nous faire découvrir à vos amis et vos ennemis sur rtl.fr. et puis si vous avez envie de découvrir d'autres de nos histoires, il y en a des centaines à podcaster. Bon régal à vous.
On vous retrouve à 21h sur RTL. On va découvrir combien de décibels l'oreille humaine peut supporter et les conséquences du bruit sur notre santé. Et puis demain à 14h, on vous propose un palmarès des villes de France.